premier balayage, moi, ça me permet d'absorber la quantité de personnes que j'ai en face de moi. Donc, effectivement, je vais juste avoir un petit temps de présentation pour que je me mette à l'aise, en fait. Pas pour vous, mais pour moi. Et que vous puissiez un peu me découvrir avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, j'ai 9 classes de 30 élèves régulièrement la semaine. Puisque je suis professeure en lycée professionnel, mais je vais mieux vous en parler. Donc c'est vrai que c'est impressionnant de multiplier par 10 ce que je vois en face de moi. Donc je suis Céline Gatté. Mon époux et moi-même sommes dans la région du Var, centre Var, sur Brignoles. Nous entrons dans notre 5e année de pastorat. Sur l'église. Et donc, depuis ces 5 années, au-delà de ces 5 années, on a eu un grand parcours. Je suis jeune maman. Alors, on va pouvoir afficher déjà le titre de mon atelier. Donc, comment protéger nos enfants dans l'école moderne. Je n'aurai pas les solutions à tout, mais au moins, je vais vous en distiller peut-être quelques-unes, en tout cas celles qui m'ont touchée. Et avant de tout ça, je suis maman de 2 enfants, donc deuxième diapo. Je vous les ai montrés parce qu'ils me manquent. Voilà. Nathan, le plus jeune, qui va faire ses 5 ans, et Anaïs, ma plus grande, qui va faire ses 8 ans. Donc, jeune maman, et durant tout notre cursus, on a des défis hein, en devenant maman, des défis sur leur éducation. Des défis sur apprendre à gérer leur comportement. Et surtout, j'ai eu le défi cette année, et j'en ai vraiment pris conscience, de l'année 2013-2014, le défi de leur comportement qui est de récupérer souvent à l'extérieur. Je ne dis pas, ils ont leur propre caractère, mais assez souvent, ils absorbent, ce sont des éponges. Je pense que je dois aussi m'adresser à des instits et des profs et dans la salle. Voilà. Et ce sont de réelles éponges. Et donc, du coup, ils prennent, ils ramènent à la maison et, malheureusement, il faut tendre les oreilles et puis reprendre et puis déconstruire pour reconstruire, etc. Donc, c'est un défi. Un défi aussi sur leur construction intellectuelle. Leur construction de leur relationnel, de leur vie en société, et surtout la construction de leurs repères. Les repères, c'est une base qui va leur permettre de s'épanouir en grandissant et de faire les bons choix, etc. Et tout ça, on est pris de plein fouet quand on devient parent, mais on est pris de plein fouet quand on est grand-parent, on est pris de plein fouet quand on est tante, oncle, etc. Et on est pris de plein fouet même si on n'a pas pu engendrer. Mais on a des responsabilités autour de nous, de nos neveux, de nos nièces, etc. On est toujours en contact avec plus petit que soi. Et donc, du coup, on a malgré tout ce défi qui nous attend. Et je voulais juste vous mettre dans le bain en vous faisant sourire. Parce que mon parcours est atypique. Je suis en défi scolaire depuis que je suis toute petite. Et en fait, l'être humain, enfin l'homme, parfois maladroit, a posé une étiquette sur mon parcours scolaire à l'âge de 15 ans. Une CPE a mentionné à ma mère qu'on ne ferait rien de moi parce que j'ai traîné une très très grosse dyslexie depuis que je suis toute petite. Et donc du coup, avec des handicaps d'apprentissage, etc., tout ça. Mais au-delà de ça, ma mère ne s'en est pas arrêtée là. Au diagnostic qu'on avait posé. Vous savez, les étiquettes, c'est assez dur à enlever après. Et ma mère, elle m'a dit, elle était jeune convertie, etc. Et dès l'âge de 5-6 ans, quand on a diagnostiqué que j'étais dyslexique, elle a dit, non, on va s'accrocher avec Dieu, nous ferons des exploits. Et en fait, on est tombé sur un verset. Enfin, ma maman, à l'époque, m'a apporté ce verset-là qui est revenu 35 ans plus tard. Et ce verset-là est dans Luc 16, 10. Et après, vous allez sourire parce que notre oratrice de ce matin en a parlé. On ira dans Luc 19, 17. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Et Luc 19, 17 dit, donc par rapport à la parabole où on a confié les talents, c'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans les petites affaires, je te nomme gouverneur de 10 villes. Et en fait, ces versets m'ont poursuivi parce que ma mère, elle m'a dit, tu t'accroches. C'est petit à petit que, voilà, on avance, qu'on progresse, etc. Et c'est vrai que, ben, comme ce matin, le Seigneur a permis d'ouvrir des portes et puis je les ai traversées les unes après les autres. Je passe mon bac avec mention. Alors, je vous dis pas ça pour me mettre en avant, pas du tout. Mais c'est pour vous encourager en tant que parents qui vivez peut-être des difficultés scolaires avec vos enfants, de ne pas baisser les bras. Et surtout de voir votre enfant dans ce qu'il pourra devenir et pas ce qu'il est aujourd'hui. Et de le prendre d'une certaine manière pour l'amener à. Et donc je passe mon bac avec mention, je gravis, je passe un BTS, j'arrive deuxième de ma promotion. De fil en aiguille, mes responsabilités, les différents postes que j'ai occupés, etc., m'ont donné au fur et à mesure des responsabilités de façon très progressive. Et puis, nous sommes partis 3 ans au Canada avec mon époux, se former à l'école biblique. Nous sommes rentrés en France donc depuis 8 ans aujourd'hui. Donc, ma grande est née au Canada. Et quand nous sommes rentrés, de la même manière, le Seigneur a continué, en fait, à former l'adulte en devenir. Et j'estime que je suis encore en formation pour l'adulte et la grande personne que je suis en train de devenir. Et le Seigneur me donne un poste à responsabilité d'une équipe. Je ne comprends pas pourquoi. Il me met à chaque fois au défi. Et à chaque fois, il me permet de les relever. Jusqu'au jour où j'ai mon deuxième enfant, donc je prends un congé parental, on déménage, donc on finit notre temps de stage sur Cannes, puis on déménage sur Brignoles pour prendre en charge une église. Je finis mon temps de congé parental et je repostule à nouveau au rectorat, parce qu'il faut savoir qu'en fait, mon premier boulot est diététicienne, j'ai travaillé en clinique, en hôpitaux, etc. Et puis, à la suite d'un boulot qui s'est mal terminé, je n'ai plus voulu travailler dans mon domaine à moi et le Seigneur a ouvert la porte du rectorat. Et tout doucement, j'ai travaillé auprès de collégiens. Et en fait, je suis prof de biologie, sciences, techniques professionnelles, etc. pour des SECPA, pour ceux qui connaissent un peu, hein, c'est des sections d'enseignement adaptées et pré-professionnelles. Ça, c'est en collège. Et puis, donc je me disais, les collégiens, ça va, je gère et tout ça, c'est bon. Et puis le Seigneur, après mon congé parental, très rapidement me donne un poste en lycée. Je me suis dit, je vais arriver et puis ils vont être tous immenses, etc. Et donc depuis 2 ans, enfin 2 ans presque 3, je suis à nouveau prof, mais partie lycée. Donc j'ai des secondes, j'ai des premières et j'ai des terminales. Donc c'est physique. Et là, le Seigneur nous amène une personne qui est instituteur depuis 30 ans dans notre église et nous fait une présentation d'un projet qu'il a à cœur depuis des années, puisqu'il avait eu l'opportunité de faire un échange avec une école chrétienne au Québec. Et en fait, le sujet qu'il nous présente fait écho dans mon cœur à ce moment-là. Et je me dis, mais pourquoi pas ? Et donc, on est rentré dans ce projet-là. Et au jour d'aujourd'hui, on est donc le 18 octobre. Et donc, ça fait 6 semaines que nous avons ouvert notre école chrétienne. Donc, on va le développer après. Je reviendrai à la fin. Mais je veux surtout vous partager aujourd'hui quoi ? En fait, ce qui m'a amenée à rentrer éventuellement de « et pourquoi pas on arriverait à ouvrir une école chrétienne ?» Pourquoi me poser la question de protéger mes enfants ? Ben, tout simplement parce que vous, comme moi, vous suivez l'actualité. Et en fait, il est sorti le débat de l'ABC de l'égalité. Et derrière ce joli titre, en fait, j'ai voulu en savoir plus. Parce que le débat qui prenait place m'a dérangée à un moment donné où je me suis dit, oh là là, nous, je sais qu'en tant que Français, on est très réac. On réagit de suite aux premières choses. Et donc, tous les débats qui prennent place... Du coup, ça m'a déstabilisée. Je me suis dit, oh là là, mais attention, enfin, je veux dire, n'allons pas trop vite. Enfin, on va peut-être pas mettre nos enfants en péril tant que ça par rapport à ce qui nous est dit. Enfin, voilà. Et du coup, j'étais comme pas stable dans mes pensées. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? Qu'est-ce qu'on veut essayer de nous apporter, etc. Et donc, j'ai commencé à gratter, à aller écouter des conférences, etc., qui ont pris débat sur ce sujet-là. Et je suis allée chercher mes propres réponses. Je n'ai pas voulu qu'on m'apporte des réponses. Mais j'ai besoin maintenant de les communiquer, parce que je pense nécessaire qu'on puisse débattre de ça, d'en discuter, et que vous fassiez votre propre opinion. Et en fait, vraiment le sujet que je vais partager aujourd'hui, c'est j'aimerais susciter chez vous des points de réflexion personnels, mais aussi spirituels, et sur le sujet du futur de nos enfants. On verra dans un premier temps ensemble la stratégie de l'État qui se met en place, mais je le comparerai à la Bible, à la position de la Bible. Et puis nous verrons dans un deuxième temps tous les moyens d'action, les armes que Dieu met à notre disposition, les promesses de Dieu, les promesses qu'il nous accorde. Et en fait, je vais vous partager mon cursus depuis 2 ans, les promesses qu'il m'a accordées, les promesses qu'il m'a accordées en tant que mère, les mères gestionnaires d'éducation de mes enfants. Et je ne remets pas en cause les instituteurs et les qualités, puisque... Ben, j'enseigne moi-même, donc du coup, je me remets pas en cause ou quoi que ce soit, mais je veux insérer la vie de mes enfants pour voir qu'est-ce qui est en train de prendre place et qui va être difficile après à déconstruire et reconstruire. Donc on va voir ça ensemble, on va prier et après on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces temps de partage. Je te remets tout ce que je vais apporter, vraiment prends la place, Seigneur Jésus. Que nous puissions regarder vers toi au regard de ta Bible, Seigneur Jésus, au regard de ta parole, Seigneur Jésus. Je ne suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour transmettre, Seigneur mon Dieu. Je veux que ton message fasse écho, Seigneur mon Dieu, que nous préparions nos cœurs, Seigneur Jésus, à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Prends ces temps, prends ces moments, Seigneur Jésus. Tout est à toi, Seigneur. Amen. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Ma première partie, je l'ai intitulée « L'actualité et la Bible ». Et vous allez rigoler parce que je vais commencer par un premier verset. Et en fait, cet été, enfin, quand tout le projet a commencé à être mis en place et l'éventualité d'ouvrir une école chrétienne, etc., j'étais dans une lecture de livre de Joyce Meyer qui s'appelle « Le champ de bataille des pensées ». Très bon bouquin. Et dans ce livre-là, en fait, il m'a été... Enfin, quand je l'ai lu, ce que j'en ai, il y a quelque chose qui est venu me sauter aux yeux. Et c'est le premier verset, Éphésiens 6, 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle nous sort ça, ça? Quel rapport avec le sujet? En fait, j'ai réalisé que je n'allais pas me battre contre l'être humain qui met en place tout ça. Non, je vais me positionner par rapport à celui qui dirige les pensées de ces hommes-là. Et malheureusement, ce sont des pensées du mal, de Satan. Et on va voir un deuxième verset. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Et quel est son but ultime? Donc, en Jean 8, 44, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs depuis le commencement. c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il part de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Et en fait, je voulais juste commencer par ça, juste pour qu'on se remette en tête qu'en fait, au travers de plein de choses, les médias, les discours, etc., et bien malheureusement, le diable s'en sert et distille au fur et à mesure des choses qui ne nous paraissent pas si négatives que ça. Et finalement, ça érige en nous des murs qui vont être durs après à abattre, etc. Donc, je ne vais pas me battre contre l'homme. Ce n'est pas mon but. Je ne serai pas du style à descendre dans la rue avec une pancarte. J'appuie sur le bouton de temps en temps, non ? Non, le son se coupe, non ? Je ne serai pas forcément, voilà, je ne ferai pas d'une personnalité à dire « ouais, je ne suis pas comme ça ». Mais vous verrez, le Seigneur a apporté une promesse tout au long de notre cursus et je vous la donnerai à la fin. Et voilà, c'est juste pour vous baser de dire « attention, l'ennemi rôde derrière ». Et qu'est-ce qui nous attend au tournant, en fait ? D'accord ? C'est pour ça que je voulais démarrer comme ça. Son but, c'est d'aller tuer. Son but, il est meurtrier. Et son but, enfin, son moyen est le mensonge. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est que ça se fait pas de façon très tonitruante. Il n'arrive pas avec sa caisse et dire « voilà, c'est moi, voilà, je suis là, je vais ta... » Non, on le vit tous les jours. Ça va se faire. Je raconte des fois au club, vous savez, le petit lézard, elle tape à la porte du château, tout petit. « Oh oui, allez, je vais te laisser rentrer. » Puis après, il est devenu énorme. Eh bien, le diable est la personne la plus patiente. Donc, elle va prendre son temps pour juste... nous amener à quelque chose qui nous paraissait peut-être choquant au départ, puis finalement, au fur et à mesure, ça nous paraît magnifique. On est d'accord ? Donc, on a placé cette base-là. Donc, le débat qui prend place, c'est un débat délicat. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est l'ABCD de l'égalité. Mais en fait, c'est comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que dans ce cheval de Troie, eh bien, quand on regarde et qu'on remonte historiquement parlant par quoi est porté le projet de notre éducation nationale, eh bien, je peux vous dire qu'à un moment donné, ça va vous faire dresser les poils et avoir des frissons. Donc, j'ai commencé à aller chercher. Donc, Raymond me demande de partager ce sujet-là. Et puis je dis, oulala, c'est un sujet brûlant, etc. Est-ce que je vais être capable et tout ça. Et puis je me retrouve dans une salle d'attente de médecin parce que mon fils devait passer une radio des poumons. Et puis je ne lui avais pas encore dit oui. Et puis j'ouvre un magazine, hein, j'attends, alors je feuillette. Et je tombe sur, alors on va passer à la diapo suivante, je tombe sur un article. Et ça s'appelle, donc il y a des maternelles pilotes, ici, pas de différence entre filles et garçons. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Il y a 5 minutes, Raymond m'appelle, je suis pas sûre de vouloir le faire. Je tombe sur l'article, je dis, bon, d'accord, bon, peut-être qu'il faut peut-être aborder le sujet. Je lis l'article, donc voilà, il est à votre disposition si vous voulez le lire à la fin. Et donc j'en ai extrait une partie et je vais vous le lire. Donc, à la fin de cet article, il est mentionné. Donc, les détracteurs y voient la volonté d'instaurer la neutralité du genre. Cela revient à nier l'altérité sexuelle et à tendre vers l'instauration d'un sexe neutre. Certains critères de différenciation sont nécessaires pour la construction de l'enfant. On est d'accord ? Hein ? Le risque, c'est de perturber son identité sexuelle. Il se construit à partir d'une réalité anatomique et biologique. Pourquoi créer alors une tension et une opposition entre les sexes là où elle n'a pas lieu d'être ? S'inquiète-t-il. Pour lui, l'argument de l'égalité est un cheval de Troie pour instaurer à terme sans même qu'on s'en rende compte, la neutralité du genre. Un argument que réfute le ministre. La théorie du genre n'existe pas. C'est une sorte de monstre du Loch Ness. Ce qui existe en revanche, ce sont des études sur le genre qui démontrent que les inégalités sont socialement construites et qu'elles n'ont rien de naturel. Mais nous ne sommes en aucun cas pour l'indifférenciation des sexes. Le débat ne fait que commencer. En fait, ça vous résume juste quel va être le dilemme. Rendre neutre l'altérité des sexes, l'enfant se construit sur une différenciation, là, on veut en faire quelque chose de neutre. Pourquoi créer une tension? Et là, ce n'est pas un chrétien qui parle hein, et qui conclut sur cet article-là, hein, c'est une personne XY. Il dit pourquoi créer une tension, une opposition entre les sexes? Je vais juste vous montrer un schéma sur lequel en fait repose le fonctionnement que l'État est en train de mettre en place. En fait, donc nous, on a dans l'actualité l'ABCD de l'égalité. Et quand on remonte dans l'histoire, en fait, il faut voir que malheureusement, l'ABCD de l'égalité, ça cache autre chose, mais ils ne veulent pas qu'on les amalgame. Qu'on les associe, voilà. Ils ne veulent pas qu'on les associe, en fait, à la théorie du genre. Parce que, quand vous allez voir la première expérience, et on va en parler, de ce qui a été mis en place pour la théorie du genre, c'est sûr qu'on ne veut pas être associé à ça. Sauf que, la théorie du genre est porteur, est une des bases de l'ABCD de l'égalité. Autre mouvement qui porte ce projet-là aussi, c'est toutes les associations féministes. Alors attention, je suis pour le fait que des femmes se sont battues pour que j'aie les mêmes droits sociaux que les hommes, etc. Je suis pour, d'accord? Mais dans cette idéologie, parce que c'est une idéologie, dans cette idéologie, il va y avoir un rapport de force avec la Bible, entre l'homme et la femme. D'accord ? Et je vais tout vous détailler après. Et au-delà de tout ça, en fait, c'est parce que le monde, aujourd'hui, depuis les années 60, et donc depuis mai 68, qui a vraiment acté ce changement dans le monde, en fait, on est dans ce qu'on appelle le postmodernisme. Et le postmodernisme a fait que, ben, tout doucement, des idéologies se sont mises en place et qui deviennent de plus en plus destructrices pour notre société. Donc, on va entamer on va aller plus loin, voilà, pour le postmodernisme. Qu'est-ce que c'est le postmodernisme? Tout simplement. Alors, j'ai écouté et je vous mettrai toutes les références des conférences que j'ai écoutées, etc., que vous pourrez aller écouter à votre tour pour aller chercher vous-même les informations. Et Luc Buissière, en fait, c'est le président des associations AFPES, c'est le président des associations des écoles protestantes en France, d'accord? Lui, il est basé à Guebwiller, et donc voilà, il peut passer dans les églises, faire des conférences chrétiennes sur le sujet. Et donc, du coup, j'ai écouté ses conférences, et quand il parle du postmodernisme, donc du coup, en fait, le postmodernisme, c'est être autonome. Être autonome, c'est pas négatif en soi. D'accord? Donc il va y avoir une double définition. Être autonome, ça veut dire, au-delà d'être indépendant, qui se dirige ou se contrôle soi-même. Être une loi pour soi-même. C'est fort quand même. C'est-à-dire que je crois en moi, je suis sûre de moi. Après, il y a une autre notion dans le postmodernisme, c'est l'individualisme. On vit pour être le plus fort. Il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le premier de la classe, il faut que tu sois, que tu arrives là, il faut que tu sois machin. Enfin voilà, ça c'est des discours que j'ai entendus et que même nous sans le vouloir, hein, qui ne veut pas que ses enfants soient le premier de la classe? Je suis la première, je les traque. Mais l'individualisme a été poussé, c'est-à-dire que je suis prêt à écraser l'autre pour moi avoir la place. Donc, c'est en contradiction avec la Bible à nouveau. Et en fait, il y a un troisième volet qui s'est mis en place, c'est le relativisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand le peuple ne croyait plus à son autorité, il s'est dit, je vais rentrer dans un certain relativisme. Et le relativisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le sens et la valeur des croyances et des comportements humains n'ont pas de référence absolue. Qui dit ne pas avoir de référence absolue ? C'est du coup ne plus croire qu'il y a eu un Dieu créateur et que ce Dieu-là ait pu m'apporter par sa Bible des lois qui vont m'aider à me construire, qui vont m'aider à m'épanouir, etc. Donc en fait, à partir de ce postmodernisme, tout est ébranlé, tout commence à s'ébranler. Et une des batailles du postmodernisme, c'est que on a opposé la foi à la science, c'est contradictoire, etc. Or, dans Colossiens 2, verset 3, il est marqué, donc Jésus, Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de sagesse et de science. La Bible elle-même dit, au contraire, pourquoi s'opposer ? Non, ça ne peut faire qu'une seule unité. Donc là, on voit déjà, par rapport à ça, qu'il y a contradiction avec la Bible. Quand on passe à la théorie du genre, là, j'ai écouté une conférence sur un docteur en éthique qui s'appelle Pierre-Olivier Ardouin. Et lui mentionne, donc je reprends ses termes, quand on parlait différenciation, sexualité, etc., effectivement, notre ministre a raison de dire « Mais moi, je ne fais pas de différence de sexe. » Effectivement, je m'accorde à dire qu'il y a des sexes féminins et des sexes masculins. Ok, biologiquement parlant. Sauf que, moi, je ne m'arrête pas là. Il pense que, par contre, le genre masculin et le genre féminin ne sont pas dictés par notre biologie, mais sont dictés seulement par l'éducation qu'on va apporter à nos enfants. Et en fait, là aussi, ça met à nouveau en place le fait que, on va être en contradiction. Alors, je voulais juste vous mentionner, donc moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai voulu voir d'où était partie cette théorie du genre. Il faut savoir que nous, ça commence à prendre place en France, mais les États-Unis, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, etc., sont très développés déjà sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, c'est un psychologue. Donc, la théorie du genre, comment la première expérimentation a mal tourné. Dans les années 1960, un médecin néo-zélandais a expérimenté sur des jumeaux la théorie du genre, en convainquant des parents d'élever l'un des deux comme une fille, une expérience aux conséquences dramatiques. Alors, je ne vous ai pas mis tout l'article, mais je vais vous le lire. Pour John Monnet, c'est l'occasion de montrer sur un modèle vivant que le sexe biologique n'est qu'un leurre. Il propose donc aux parents désemparés d'élever Bruce, donc ils attendaient des jumeaux, d'élever Bruce comme une fille, sans jamais lui révéler son sexe de naissance, donc ils l'appelleront Bruce, et il s'appellera désormais Brenda. Il reçoit d'abord un traitement hormonal, puis se voit retirer ses testicules 14 mois plus tard. Désormais fille, Bruce Brenda, porte des robes et joue à la poupée. Pendant toute leur enfance, les jumeaux, donc il a son frère Brian, et Brenda suivent un développement harmonieux, faisant de l'expérience du sexologue une réussite. Du moins, c'est ce que John Monnet, qui garde un œil sur l'évolution en les recevant une fois par an, c'est ce qu'il croit. Il publie d'ailleurs de nombreux articles sur le sujet, puis un livre en 1972, etc. Mais si Brenda a vécu une enfance sans heurts, les choses se compliquent à l'adolescence. Sa voix devient un peu plus grave et elle se sent attirée par les filles. Petit à petit, elle rejette son traitement au profit d'un autre pour la testostérone. Car au fond, elle se sent davantage garçon que fille. Désemparée, le couple Rémer avoue la vérité à son enfant. Dès lors, Brenda redevient un homme. Un homme, David, auquel on crée à nouveau chirurgicalement parlant un pénis et on lui retire ses seins. Ce dernier se mariera avec une femme à l'âge de 24 ans. Mais cette expérience identitaire hors norme a laissé des dégâts irréparables chez les jumeaux et les deux se sont suicidés par après, en 2002 et en 2004. Alors c'est sûr que pour nous, on entend ça, on se dit « mais c'est juste fou ». Comment en tant que parent on a pu, mais bon, quand on est désemparé et pas du tout géré par Dieu qui a fait la lumière en nous, eh ben on va peut-être dans des extrémités. Donc il a voulu essayer de démontrer que ce n'était que par l'éducation qu'on devenait. Donc on peut naître avec un sexe masculin, mais pourquoi pas, je suis une fille. Je nais avec un sexe féminin, mais pourquoi pas, on va se tester, je vais peut-être être un garçon, etc. Et en fait, de ça, ils en font une théorie, même si l'expérience finalement a été négative, hein, au bout du compte, hein, c'est ça qui est grave. Hein. Eh ben non, on continue et on est persuadé que finalement, c'est l'éducation qui va nous prouver qui je suis. Et ce qui va être de plus en plus grave, c'est que on va commencer à vouloir l'inculquer, parce qu'ils se disent, les adultes, c'est déjà un peu trop tard. Chez qui on va aller travailler, là où c'est malléable, donc chez les enfants. Et en fait, donc, toute cette théorie du genre a commencé à prendre place, etc. Et on voit que dans les pays du Canada, etc., de plus en plus, on rentre dans de la neutralité. On n'a plus de notion de parent, on n'a plus de notion de père-mère, mais c'est de la notion de parent. On uniformise. Je poursuis, parce que là j'embraye sur d'autres points, mais je poursuis. Troisième volet qu'on a vu qui soutenait ce projet-là, c'était le féminisme. Et là, à nouveau, je vais vous donner un extrait d'article qui a été écrit par notre cardinal, donc qui est devenu le pape aujourd'hui, d'accord ? Le cardinal Ratzinger, en 2004. Il est intitulé « La collaboration de l'homme et de la femme dans le monde contemporain ». Ces dernières années, on a vu s'affirmer des tendances nouvelles pour affronter la question de la femme. Une première tendance souligne fortement la condition de subordination de la femme dans le but de susciter une attitude de contestation. La femme, pour être elle-même, s'érige alors en rivale de l'homme. Pour éviter toute suprématie de l'un et de l'autre, donc pour arrêter cette guéguerre, qu'est-ce qu'on fait ? On tend à gommer leurs différences, considérées comme de simples effets d'un conditionnement historique et culturel. Dans ce nivelage, la différence corporelle, appelée sexe, est minimisée, tandis que la dimension purement culturelle, alors appelée genre, est soulignée au maximum et est considérée comme primordiale. La racine immédiate de cette tendance se trouve dans le cadre de la question de la femme. En fait, il faut savoir qu'au-delà de se battre pour des valeurs sociales, en fait, le féminisme, qu'est-ce que c'est ? C'est « je suis en rivalité avec l'homme ». En fait, l'éducation que je donne à un garçon va... Alors, je vais reprendre exactement les termes pour ne pas me tromper. Voilà, la femme, en fait, pense que l'homme, quand il grandit et quand on l'éduque, va devenir une oppression pour la femme. Donc, une rivalité. Et par cette menace, par cette croyance hein, de croire que l'homme est une menace pour la femme, eh bien, du coup, il va falloir faire quelque chose pour combattre ça. Et pour combattre ça, ben, du coup, on va essayer de calmer le jeu en disant, ben, on va un peu neutraliser pour être sûr que ce combat-là puisse se taire. Donc, toutes ces idéologies et ces théories qui sont mises en place, c'est tout simplement abolir des règles qui sont établies, abolir le fait que l'être humain se construit normalement par une discrimination. Je vais pas apprendre à mon... Enfin, on est d'accord que à mon enfant, je lui dis « Attention, quand on se promène dans la forêt, cette plante-là, il faut pas que tu la manges. Elle n'est pas bonne. » Je vais pas lui dire « Teste, puis tu verras. » On est d'accord ? On construit notre enfant en disant « Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, etc. » Et là, ben là, non, nous, non. On essaye de neutraliser tout ça. Donc, abolir des règles. Abolir le fait qu'on a le droit d'avoir une discrimination. Attention, pas négative, hein. Positive. Avoir du bon et du mauvais. On ne veut plus conditionner les pensées. Sauf que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils commencent tout doucement à nous conditionner. Et là, je voulais rebondir sur ce point-là parce que quand on revient à l'origine de la Bible, à l'histoire d'Adam et Ève, en fait, quand Dieu a mis donc Adam et Ève dans le jardin, donc Adam était seul, il a créé Ève, et on va afficher le verset donc à la diapo 11. Donc il est dit dans Genèse 2, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, ou que ce soit son vis-à-vis. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. » Et quand on reprend le texte, à l'origine, qu'est-ce qui se passe ? Dieu crée la femme pour qu'elle soit une aide semblable ou son vis-à-vis. Et quand on va regarder en fait la signification du mot « aide », qui veut dire « ézer », c'est en fait tout simplement « secours ». Moi, je suis contente d'être le secours de mon mari. Non, je ne sais pas vous, mais en tout cas, oui. Quand on voit le mot « vis-à-vis » dans certaines traductions, ça veut dire « vis-à-vis », ça veut dire « de la même nature que face à face, tête à tête ». Est-ce que pour vous, quand vous regardez la signification de ces mots-là, ça veut dire « je suis en concurrence » Et en plus, il termine, il nous a pris d'une côte pour dire « je suis côte à côte avec toi pour qu'on s'entraide à avancer, qu'on soit ensemble unis pour avancer ». Donc là, c'est deux suites contradictoires avec... ce que le féminisme pense. Sauf que le péché arrive. Et quand le péché arrive, et que, donc, ils ont croqué la pomme, Dieu, quand il vient les chercher, est-ce qu'il va chercher Ève ? Non. Il dit, Adam, où es-tu ? Et Adam, quelle est sa première réaction ? Ah, c'est elle ! Donc, imaginez que c'est dans la logique humaine, dès que le péché est entré, l'homme et la femme se sont mis en rivalité. Ah non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et elle va répondre, enfin voilà, enfin, on peut continuer le film, mais non, mais tu m'as pas protégée parce que tu étais là pour... Enfin voilà. Et en fait, la guerre commence à ce moment-là, et en fait, ben, du coup, des années, des millions d'années après, eh ben, elle a pris de l'ampleur. D'accord. Donc je voulais juste revenir à l'origine parce que je me suis dit, mince, en fait Dieu, dans son plan originel, n'avait pas prévu ça. Malheureusement, le péché est arrivé et qui nous a opposés. Donc c'est vraiment de se dire, j'ai mon vis-à-vis à côté de moi, je suis côte à côte. Je n'ai pas peur de celui et je n'aurai pas peur d'élever mon garçon. Garçon ? Parce que je sais qu'il va venir compléter la vie d'une femme, qui viendra compléter la sienne, avec les bons éléments. D'accord ? Donc déjà, un parallèle qui, du coup, nous démontre que ce n'était pas prévu à l'origine. Même le mot « sexe » veut dire, vient du latin « sécar », qui veut dire « couper ». D'accord ? Donc même dans le vocabulaire, alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme nouveau mot ? Ben non. Le sexe, c'est j'ai deux entités bien distinctes, bien différentes. Donc voilà ce parallèle-là que je voulais faire par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça se place qu'est-ce qui se met en place et ce par quoi c'est porté. À l'origine, nous devons être différents, mais nous sommes associés. L'ennemi est venu tout basculer, etc. Et du coup, quelle va être la stratégie qui va être mise en place par l'État pour essayer d'amener à terme leur projet? C'est tout simplement qu'ils vont vouloir abolir. Donc, on a vu la discrimination qui devient une menace. Ils veulent renverser les codes. Ils veulent abolir les règles. Et en fait, il faut savoir que ça a pris place. L'État s'en est emparé de ce débat-là depuis 1995 sur des signatures de textes à l'ONU. Alors, non, il faut l'enlever pour l'instant, celle-là. Voilà, on l'enlève. Je te dirai à quel moment la placer. Parce que vous voyez tous les regards. Donc, l'État a pris ça en charge depuis 1995 à l'ONU. L'État va alors s'attaquer au formatage des consciences. Et quand on regarde formatage des consciences, on a quand même vécu deux guerres mondiales, dont une où malheureusement, il y a eu un formatage d'idées, de pensées, et il ne s'est pas attaqué à des adultes, il est allé chercher la jeunesse. Et en fait, on se rend compte que, de façon insidieuse, ben, on reproduit ce même schéma. Donc, je disais tout à l'heure, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne ont pris de l'avance, puisqu'il y a une neutralité, on ne parle plus de père, mère, mais on parle de parents. Il faut savoir qu'en Allemagne, des parents ont été emprisonnés 30 jours par rapport au fait qu'ils ont refusé que leurs enfants aillent à l'école parce qu'ils allaient parler d'un sujet sur la sexualité, etc. Donc voilà, nous, on n'en est pas encore là. Mais ça prend place. Il faut savoir qu'en Allemagne, on n'a plus le droit de faire l'école à la maison. C'est l'État qui gère tout ça. Voilà, donc ça a pris place depuis un bon moment sur certains pays. Et nous, où est-ce qu'on en est? Alors, notre ex-ministre Vincent Peillon dira lui-même dans un de ses discours, dans une de ses représentations, « Je veux abolir toute croyance et créer une religion laïque ». Les mots sont forts. Les mots sont très forts. Donc, je veux abolir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adulte est déjà trop construit à leur goût. Donc, on va s'attaquer sur le terrain des enfants. Qui dit s'attaquer sur le terrain des enfants? Eh bien, on va les prendre à la source. De la crèche jusqu'à ce qu'ils finissent leur cursus scolaire, pardon. On parle de... Enfin, ça va parler aux profs et aux instits. La loi de la refondation de l'école, ça vous parle? Elle a été votée, enfin, elle a été signée et votée en 2010. Donc, elle a été votée, mais maintenant, il faut qu'elle se déploie. Se déployer où? Et en fait, il y a le recteur qui a donné cet ordre-là dans une de ses lettres. Je cite... Déconstruire les stéréotypes du genre, s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité et des orientations sexuelles. Je suis d'accord avec le fait que je dois respecter mon prochain. Je suis d'accord avec le fait que si quelqu'un a une attirance différente de la mienne, je ne vais pas le rejeter. C'est une personne que Dieu a créée, c'est une personne que j'ai à aimer. Je ne suis pas en accord avec ce qu'elle fait. On est bien d'accord. Mais c'est une personne que j'aime, pour laquelle je veux, voilà, être en contact avec elle, etc. Sauf que là, c'est vraiment les termes de déconstruire. Je veux que vous arriviez à comprendre que les mots ont un poids. Déconstruire les stéréotypes du genre, s'appuyer sur la jeunesse pour mettre en place. En fait, l'école va devenir une rééducation morale. Donc là où on en est, c'est que depuis un certain moment, donc 275 écoles à peu près sont en projet pilote, mais depuis la circulaire donc de 2010, ça commence vraiment, donc ça va s'appliquer à toutes les écoles maintenant. Et ils ont même rajouté une compétence dans les socles communs, etc. Et cette compétence est la suivante: différencier à partir de la confrontation des données biologiques et des représentations sociales ce qui relève de l'identité sexuelle des rôles et de leurs stéréotypes dans la société. En fait, on veut faire un mélange. En fait, on veut embrouiller, de reprendre, de dire « je nais avec un sexe féminin, mais je vais me tester ». Pourquoi pas essayer le fait que oui, je pourrais aimer une fille ou quoi que ce soit. Mais ça, je ne veux pas qu'on l'impose à mes enfants. Ça, je ne veux pas. Bêtement, alors moi, vous avez vu, j'ai vu une fille et un garçon. Et je peux vous dire, intrinsèquement parlant, c'est différent. En fait, ce qui est bon dans leur, entre guillemets, dans ce qu'ils veulent faire, c'est de dire, ben, c'est pas parce que je suis un garçon, alors un garçon c'est toujours plus turbulent qu'une fille, alors oui, un garçon, oh ben oui, mais parce que c'est un garçon. Non, je suis d'accord, hein. C'est pas parce que c'est un garçon qu'il n'a pas le droit d'être plus sage qu'une fille, enfin, ou c'est pas parce qu'une fille elle est sage qu'elle ne va pas faire pompier à la fin, enfin, on est d'accord. Voilà, je ne suis pas dans une pensée, voilà, on est d'accord. Sauf que, ben, mon garçon, depuis qu'il est né, à l'âge de enfin, il a commencé à parler très tôt, et il y a des gens qui peuvent en témoigner. Il a marché très très tôt, il y a des gens qui peuvent témoigner. Papa, je peux faire la bagarre. Mais on ne lui avait pas appris à faire la bagarre. C'est juste que c'est en lui. Maman, tu peux me faire les ongles pour ma fille. Enfin, voilà. Mais mon garçon, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ben, pendant un temps, il a joué à la poupon, et à la poussette, et etc. Et puis je me maquille comme maman, et puis j'ai discuté avec ma belle-mère qui est directrice de crèche. Et puis elle me dit, mais tu sais Céline, et ben, je le savais, mais on le partageait. C'est totalement naturel. Un garçon va s'identifier à la maman, il va devoir développer, parce que par mimétisme, il va découvrir. Et j'apprendrai à mon garçon à passer l'aspirateur. Et j'apprendrai à mon garçon à repasser, à faire les... Mais même lui me le demande, il me dit, maman, je peux trier le linge avec toi? Mais oui, mon chéri, bien trier le linge avec maman. Voilà, je ne vais pas m'arrêter parce que c'est un garçon, non. Mais il faut que ça en reste à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir, et donc ma belle-mère me le mentionnait, qu'il y a eu des crèches pilotes et qu'en fait, il y a des espaces de neutralité où on impose un certain nombre d'heures dans les crèches à ce qu'un garçon impérativement se déguise en fille, etc. Donc du coup, c'est imposer quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin voilà, après c'est mon opinion. Mais voilà, du coup j'ai pris conscience de tout ça et je ne m'en rendais pas compte du tout. Au travers de ça, ça se poursuit. Par quels moyens ils vont essayer de nous mettre ça en place? C'est qu'une fois, une heure par semaine, il va y avoir ce qu'on appelle la morale laïque. Après, tout ce qui est science et vie de la Terre va être modifié dans les apprentissages et dans les contenus. Surtout au niveau de tout ce qui va être dans l'enseignement de la sexualité, hein, tout simplement. J'ai eu une professeure qui est en collège, donc qui est prof d'SVT en collège, et quand elle a entendu dire qu'on commençait à créer une école chrétienne, en fait, elle m'a appelée, elle me dit, je commence à être déstabilisée parce que, en fait, donc, je suis prof d'SVT et toute la partie sexualité, en fait, on me l'a enlevée et ce sont des associations qui viennent dans le collège prendre une partie du temps, hein, une partie du temps pour leur apprendre et les enseigner. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est des enseignements qui sont malheureusement déformés, pour lesquels on inculque des choses. Et on va pas tarder à arriver à la diapo suivante. Moi, j'ai reçu dans mon casier, alors malheureusement, j'aurais voulu voir un peu ce qui se cachait derrière. J'ai reçu dans mon casier, vu que je suis prof, donc j'enseigne de la biologie, etc., auprès de mes élèves, j'ai reçu dans mon casier, en septembre, comme quoi j'étais convoquée pour être à nouveau formée sur les programmes que j'allais enseigner. Alors, je ne connais pas exactement le contenu de ce qu'on allait me dire, mais peut-être que le sujet, il serait passé. Je continue. Ils veulent tout doucement abolir certaines littératures pour en glisser certaines. ils veulent commencer à abolir le fait que, eh ben, les histoires de princesses et de princes et de chevaliers, etc., c'est trop discriminatoire. Petit ours brun. Alors, je l'accorde. Maman ours cuisine. Et puis, papa ours, il est assis dans son fauteuil. Alors, oui, je suis d'accord. Papa ours, il peut se lever et faire la cuisine. Mais pourquoi l'enlever ? Enfin, après, ça peut être apporté avec des mots, etc. Enfin, on n'en est pas... Enfin, je ne pense pas que j'en suis à ce degré-là de me dire... parce que, ben non, mais parce qu'à la maison, nos hommes sont de plus en plus modernes, et puis, moi, ils le voient cuisiner, ils le voient, enfin, voilà. Et puis, même si dans le couple, notre mari cuisine pas, mais c'est pas grave, enfin, toi, mon fils, tu apprendras, ou ma fille, enfin, viens, on fait le jardin, on passe la tondeuse, enfin, voilà, je suis... Puis, en plus, j'ai une fille casse-cou qui peut faire des trucs... Mais voilà, pas s'arrêter à ça. En fait, donc on veut abolir certaines littératures et puis on va en imposer certaines. Tango à deux papas, et pourquoi pas. Un livre qui a fait débat, tous à poil. Et un dernier, où en fait, j'ai été un peu déstabilisée. Alors là, je vous ai ponctionné, hein, bien sûr. C'est au milieu d'autres livres. Petit chaperon rouge, c'est continué à... Boucle d'or, c'est continué à être raconté, etc. Hein, tout ça, mais en fait... On va afficher la diapo. C'est un livre qui s'appelle Les Chatouilles. Trop mignon le titre. Et sauf que je suis allée voir en fait à quoi correspondait ce livre-là. Et en fait, c'est un livre sans parole, essentiellement qu'avec des images. En fait, c'est un frère et une sœur qui sont au réveil le matin. Et la grande sœur va dans la chambre du petit frère et pour le réveiller. Et donc, en fait, elle grimpe dans son nid, etc. Et puis, le pyjama d'en bas, enfin, le bas du pyjama s'enlève. Et puis, on se rend compte qu'on peut chatouiller toutes les parties du corps avec une plume, avec, etc. Et juste, enfin, je suis, enfin, juste vous regardez les positions. C'est juste aller inciter, on peut passer la diapo. C'est juste, et moi, ça m'a donné des frissons, quoi. Je me suis dit, oui, peut-être, ils ne passeront pas par ce type de lecture, mais oui, peut-être, on va venir à ce que, dans l'enseignement, il nous est dit, vous le savez, en tant qu'incite, on doit avoir lu certains contes, certaines choses, etc., et bien, ça en fera partie à un moment donné. Et moi, je ne veux pas qu'on aille inciter ou susciter chez mon enfant. Parce que ça se fait naturellement, hein, vous le savez, hein, qu'ils découvrent leur sexe, ils découvrent leur sexualité dès le plus jeune âge, qu'il y a des enfants, parce que ben, on les caresse, on fait les câlins, etc., qui ont du plaisir par rapport à ça, mais je ne vais pas aller au-delà de leur... Je ne veux pas déclencher chez eux des choses auxquelles ils ne pensent pas. Pourquoi aller si tôt polluer quelque chose qui peut au contraire les déstabiliser. Que si votre enfant pose la question, parce que moi ça y est, j'y suis passée, et ils sont petits. Mon fils de 4 ans qui dit, moi je sais d'où je sors, maman. Oh, super. Alors comment je vais l'expliquer? Voilà, mais il m'a posé la question, j'en parle avec lui. C'est pas quelque chose que je vais garder tabou, parce que sinon, pour nous, c'est pas bon. On les fera grandir et puis ils iront chercher leurs infos ailleurs et pas de la bonne manière. Mais c'est pas accélérer dans le temps des choses qui vont prendre place au fur et à mesure. Et là, ça s'accélère. Là, en fait, on a reçu un mail où, vous savez, il y a une exposition à Paris qui s'appelle le zizi sexuel. Et là, pareil, je suis allée voir sur le forum qu'est-ce qu'allait être montré aux enfants sur une tranche de 8-9 ans. Mais c'est juste, j'ose même pas le dire avec les mots des légendes sur les dessins. 8-9 ans, ma fille va avoir 8 ans. Elle sait que j'aime que j'aime son papa, qu'on se fait des bisous, que voilà. Mais il faut que ça reste encore avec préservé, on va dire, d'accord. Et alors nous, maintenant notre position. Parce que bien, donc on a vu tout le portrait malheureusement négatif qui est tout doucement en train de se mettre en place. Et en fait, Dieu est venu vraiment m'attaquer sur mon terrain et me dire, ben, Céline, je vais t'apporter des promesses et des versets, etc. Et donc, je vous les partager. Il faut que vous compreniez et que vous vous rendiez compte que l'État nous enlève notre autorité parentale. De plus en plus, en fait, confiez vos enfants. Et puis, je me rends compte que si on a encore la possibilité d'échanger avec beaucoup d'instits ou de profs ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Et en fait, Dieu nous met en garde déjà par un verset dans la Bible, dans 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là diront, interdisant de se marier, de consommer les aliments de Dieu. En fait, il nous met en garde que, en fait, le diable, sa stratégie, c'est... au travers de ce qui est mis en place par l'État, etc. Et je dois respecter mes hommes de loi, d'accord ? Mais ils sont en train de nous diriger en disant, ne te marie pas, c'est pas grave, ou teste, c'est pas grave, etc. Dieu nous met déjà en garde. On va voir la diapo suivante, où quelle est notre sphère, en tant qu'enfant, quelle est notre sphère d'influence, merci. Donc l'enfant est au milieu, il y a la famille, il y a l'église pour nous qui sommes chrétiens, et puis il y a l'école. Et très rapidement avant de rentrer, j'ai fait le calcul, on passe en moyenne 6, 7 heures, 8 heures à l'école. En fait, on passe un tiers de notre temps en dehors de la maison. Donc qu'est-ce qui se fait sur nos enfants pendant ce temps-là ? Alors, je ne remets pas tout en cause. Hein. Mes enfants ont été dans des écoles publiques. Je suis très satisfaite de l'éducation qu'ils ont reçue, etc. Donc ça, voilà, entendez-moi, hein, mon discours est bien modéré, d'accord ? Mais quand même, je me dis, ah oui, mes enfants passent un tiers du temps à l'extérieur. Donc, je vais passer un tiers du temps, éventuellement, à récupérer des choses que je vais devoir retravailler à la maison. Dans la diapo suivante, il faut savoir que... Ah non, c'est pas celle-là. Avant, je vais vous parler d'une chose. Il faut savoir que, du coup, j'ai regardé à la Bible. Et il faut savoir que dans la Bible, l'enseignement, etc., est parlé très tôt dans la Bible. Quand Moïse est allé délivrer le peuple de l'Égypte, en fait, il l'a ôté d'une certaine mentalité pour le sortir. Et Dieu, à partir de ce moment-là, a pu reformater son peuple, l'éduquer du plus jeune jusqu'au plus ancien par un intermédiaire, Moïse. Bon, Moïse allait sur la montagne, il écoutait la voix de Dieu et il revenait auprès du peuple et il les instruisait, etc. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, après la Bible, etc., le seul moyen d'éducation, les seuls écrits qui existaient, c'était la Bible, etc. Donc tout l'enseignement se faisait autour des textes bibliques. Et même à l'époque, on choisissait celui qui allait enseigner, parce qu'il y avait, Dieu nous a accordé des talents et des qualifications différentes à chacun. Certains seront docteurs, certains seront enseignants, certains, etc. Et donc l'enseignement prend part de façon très importante dans la Bible. Dans Proverbes 1, 8, et on peut passer, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. » Proverbe 22, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Quand Jésus est parti, quel est l'ordre qu'il nous a donné ? Matthieu 28, « Allez donc !» Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, etc. Donc l'enseignement fait partie. Et quand on regarde le mot enseignement ou dans d'autres versions, le mot enseigner était remplacé par éduque, Éduque, ça veut dire quoi ? Instruit, oriente, donne, apprend, consacre, entraîne. Dans la Bible, en hébreu, zahar et lamad, donc c'est deux significations différentes du mot enseigner. Zahar veut dire signaler, avertir, envoyer de la lumière, éclairer. Donc moi j'ai pris conscience qu'en tant que maman, en tant que parent, j'ai ce rôle d'envoyer la lumière auprès de mon enfant. J'ai ce rôle d'enseigner. Alors là, c'était un enseignement des apôtres, etc. Enfin, à être disciple, pardon, un enseignement à être disciple. Mais nos petits bouchons sont des disciples en devenir. Et ça passe par l'éducation biblique, mais ça passe aussi par l'éducation traditionnelle. L'amad veut dire exercer et donner de la science. Donc la Bible, elle dit, allez, éduquez-les, formez-les, etc. Ouvrez leur esprit au plus de choses possibles. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, mais Seigneur, je prends mon rôle de mère à cœur, je prends mon rôle d'éducatrice à cœur, je suis auprès de mes enfants, je vois ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, etc. Mais un dimanche matin, je me suis retrouvée un peu désemparée, puis j'étais pas bien, et puis j'arrive au culte. Et donc, on était vraiment au creux du sujet de créer l'école. Et j'avais encore ce combat de me dire, est-ce que c'est bon de créer l'école ? Enfin, voilà, vous savez, des fois, les mensonges du diable, ils reviennent très rapidement. Et en fait, le pasteur me délivre le verset suivant, psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. En fait, quand je suis allée regarder ce verset-là, parce que moi, il m'a percutée. Pourquoi ? Parce que qui te couronne, ça veut dire qu'il te donne une responsabilité. On couronnait des rois, d'accord ? Et donc, qui dit couronner, qui dit donne une responsabilité. De bonté et de miséricorde. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi là ? En fait, il faut savoir que la racine du mot miséricorde, au-delà que ça soit d'avoir de l'empathie pour les autres, etc., tout ça, le mot miséricorde veut dire matrice et sein maternel. Alors, je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais j'ai le sein maternel. Et en fait, Jésus lui-même, enfin, par son sacrifice, Dieu nous a couronnés de miséricorde. Et au travers de ça, je suis, du coup, moi, en tant que mère, investie de ce challenge-là. C'est-à-dire que je vais prendre soin, comme Jésus a pris soin. Il a porté ce qu'on porte, nous, en tant que femmes. Et nos hommes ont une part à prendre aussi, mais ils n'ont pas d'utérus. Qui a vécu le fait que moi j'ai une certaine sensibilité. Je ne sais pas si certaines ont assisté à l'atelier de Justine, mais ils ne parlent pas, on sait ce qui se passe. Nos enfants, dans nos enfants, ils nous regardent, on sait ce qui passe. Parce que c'est en nous. Et là, je me suis dit, Seigneur, purée, je suis investie de quelque chose d'assez costaud. Et donc, du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit, d'accord, il faut que j'assume l'autorité que tu m'accordes pour mes proches, mes enfants, etc. Je vais vous partager une petite expérience. Je sais que le temps avance vite. Je voulais passer à des questions. Cet été, mon mari donc, est pasteur. Et en fait, il doit partir en urgence pour prier pour une femme qui est pratiquement en fin de vie. Et au moment où il part, moi-même à la maison... je suis attaquée, ma fille se met à hurler de douleur, à se taper la tête contre les murs, etc. En fait, c'était une otite qui démarrait, mais vraiment les douleurs. Et puis là, moi, désemparée, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que ferait mon mari ? Comment il prierait ? Et puis là, je m'assois, je prends ma fille sur les genoux, et puis je dis, non, mais j'étais investie de la même chose que mon mari. Je suis son égale. Il a reçu l'autorité, j'ai reçu la même autorité. Et donc j'ai pris conscience que assez souvent on se repose sur des personnes autour de nous ou sur notre mari ou sur ben non. Oui, je me repose, ça m'aide, mais je suis investie de la même chose, de la même autorité que mon mari, etc. Et puis, le temps a passé. Et puis, je fais souvent les montagnes russes. Je ne sais pas si, si vous êtes pareil. Et là, pareil, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible, tu ne peux pas m'accorder ça, etc. Une ouverture d'école, c'est trop compliqué, tout ça. Et puis, Dieu, dans une intimité avec lui, il me dit, Jésus veut bâtir son royaume sur des pierres vivantes. Tu es cette pierre vivante. Tu te sens comme insignifiante, sans valeur, pour accepter le deal que Jésus est en train de faire avec toi. Il te dit, j'ai besoin de toi pour bâtir. Et deux jours après, je tombe dans ma lecture quotidienne, dans les versets qui vont suivre. Je tombe sur les versets dans 1 Pierre, qui nous disent, 1 Pierre 2, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former, à votre tour, hein, une maison spirituelle, etc. » Et c'est venu apporter à nouveau la confirmation qu'il fallait que j'aie confiance, que je prenne confiance que Dieu m'accompagnait et qu'il m'attendait sur le fait que je prenne ce rôle de la pierre vivante qui va bâtir son royaume. Et je me suis dit, parce que ce qui me trottait, qui me continuait à me trotter dans la tête, c'est que quand on crée une école, on se confronte beaucoup aux autorités, on se confronte à la mairie, on va exposer notre projet devant la mairie, etc. Et je disais, mais Seigneur, c'est pas contre eux que je veux me battre, c'est pas... Et le Seigneur m'apporte la suite, 1 Pierre 2. « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui ont fait le mal, approuver ceux qui ont fait le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes. » Et en fait, il est venu m'apporter ma réponse. Moi, je ne serais pas une militante. Juste Dieu ne nous demande pas d'être des militants. Juste Dieu nous demande d'être quoi ? C'est juste en pratiquant le bien que vous allez réduire ou que vous allez déstabiliser la personne qui va être en face de vous. Et quand moi j'ai dû, parce que donc du coup quand on a fait les démarches pour aller à la mairie, etc., on avait une mairie très communiste et donc très... Elle acceptait pas trop les projets d'église, etc., tout ça. Et je me suis dit, bon, mais c'est bon, hein, on va se faire... Et je suis venue avec ce verset-là. J'ai dit, je me battrai pas. Juste, je veux proposer quelque chose qui, éventuellement, pourra servir. Merci, Seigneur. Ça, enfin, les démarches ont évolué. Enfin, les démarches ont été acceptées, etc. C'est juste, voilà... On ne va pas sortir nos pancartes. C'est juste vous, de vous placer là où vous devez être, avec les paroles de Dieu, avec les promesses de Dieu, de vous tenir en tant que matrice, protectrice, de dire, je vais prendre soin, je vais discuter, je vais ouvrir le dialogue. Être présente avec l'autorité que Dieu nous accorde. Et comme... Je terminerai, je ne sais pas si je l'ai mis. Et un des derniers versets que j'ai reçus récemment, où dans une prédication, il était dit, donc dans Daniel chapitre 1, verset 8, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Et je me suis dit, ben, ma fille, t'as du boulot, mais j'ai peut-être envie de devenir ce Daniel qui a été récupéré jeune, qui a été sorti de son contexte culturel, qui a été sorti, donc a été mis dans la ville où ben, voilà, il se passait des choses pas en accord avec le Dieu qu'il aimait, etc. Et il s'est positionné. Il a dit, je ne... Alors, je prends la ferme décision de ne pas se, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis. Et en fait, ça a fait écho en moi parce que je me suis dit, Seigneur, que je puisse être cette matrice qui préserve pour que mes enfants n'aient pas à consommer ou qu'ils en consomment le moins possible. Des choses qui viennent de l'extérieur. Alors, je ne dis pas, attention, je ne vais pas mettre mes enfants en bulle. On est d'accord ? Mes enfants, ils sont dans la société, je veux les faire grandir dans la société. Non, ce n'est pas des enfants en bulle que je fais, pas du tout. Parce que je pourrais vous dire, on a ouvert une école chrétienne, mais ce sont des enfants inconvertis que j'ai. On est d'accord ? Donc, ils se battent, ils se chamaillent, on est dans la société. Mais je veux essayer de me tenir debout et d'être surtout vigilant et de se laisser conduire par Dieu pour dire que je sois celle qui va éviter que mes enfants consomment de trop. Parce que vous n'aurez pas tous l'occasion de pouvoir ouvrir une école chrétienne, mais vous avez votre propre responsabilité de dire « je vais faire attention à ce que mes enfants consomment à l'extérieur ». Donc c'est vraiment ça que je voulais laisser sur votre cœur. Dernière diapo, en fait, on va aller à la prière parce que je veux faire un petit appel. Et donc voilà, en fait, je devais vous passer la vidéo de notre création d'école. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on s'est dit ben, « pourquoi pas ?» On se lance dans l'aventure et après 1 an de démarches administratives, on a pu ouvrir notre école parce qu'on est encore dans les temps où c'est possible de le faire. Merci Seigneur, on a eu les ressources dans les personnels. Donc, si vous voulez, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je veux vous laisser quelques questions. À la fin, il y aura des diapos de toutes les références des conférences que vous pouvez aller vous-même réécouter sur YouTube, etc. Je reste à votre disposition. En fait, on a mis en place, parce que je veux aussi peut-être susciter chez vous que, et pourquoi pas, ça serait à votre tour de vous poser la question, est-ce que j'arriverai peut-être à créer une école chrétienne ? Parce que je peux vous dire que qu'est-ce que c'est bon de vivre la Bible au quotidien. Et je peux vous dire, moi j'ai été la première, et pourtant j'en suis la directrice de l'école. Je suis institutrice chez les maternelles. J'ai une collègue qui fait les 2 autres jours. Moi, j'en fais 2. Elle en fait 2 autres. On a 10 élèves cette année, en espérant on travaille déjà à l'agrandissement. Je peux vous dire que c'est juste magnifique de se dire, j'ai mes enfants qui sont turbulents un matin. Je me suis retrouvée à genoux au milieu de la classe, à chanter un cantique. Et bizarrement, les petits, ils se sont assis, comme ça. Et alors, je peux vous dire que les apprentissages, après, ça fuse. c'est tellement bon de dire, de régler un conflit entre enfants en disant, on va en discuter. Est-ce que tu penses que parler du pardon, parler de... vivre la Bible au quotidien, vivre que un enfant dit, mais si Jésus, il a fait ça, on en parle. Au travers de l'apprentissage, je peux vous dire que ma fille et moi, j'étais une des premières à me dire, oulala, mais si je mets mon enfant dans... Enfin, si je crée une école chrétienne, il va manger de la Bible le matin, la soir, l'après-midi, il va en rêver, je vais lui faire une overdose de... Non, parce qu'on est équilibré. C'est juste un équilibre. Comme je vous ai dit, je veux pas que mon enfant soit dans une bulle. Donc, on lit plein de choses, on fait plein de choses, on fait le socle commun, on va lire le petit chaperon rouge dans pas longtemps, même on a parlé d'Halloween parce que du coup, les petits, en fait, on a des cours d'anglais, on a 1h30 de cours d'anglais par semaine. Et donc, c'est une américaine, et en fait, tous les petits, on est passé à McDo, il y avait des toiles d'araignée, il y a des machins, des trucs. Et en fait, je vais dire, oui, ça c'est interdit, je n'en parlerai pas. Non, on a dit, et on a essayé d'aller trouver. C'est leur apporter une façon de penser. Je ne leur apporte pas la réponse tout cuite. Je leur dis, on va en discuter. Est-ce que Seigneur, il aime ça, il n'aime pas ça? Et eux vont trouver eux-mêmes leur réponse. Ah mais oui, mais parce que ça, c'est moche. Donc effectivement, Jésus, voilà. Voilà, c'est pouvoir parler de sujets divers et variés, tout en préservant un cadre où on ne va pas trop vite dans certains apprentissages parce qu'on ne veut pas susciter, etc. Et donc voilà, c'est un privilège, un honneur d'avoir été dans cette équipe. On a eu un an et demi de démarches. À chaque fois, le Seigneur nous a accompagnés vis-à-vis des autorités. On a été presque accueillis à bras ouverts. Enfin, on intervient dans tous les événements que la ville met en place pour les écoles. Et enfin, voilà, c'est vivre l'école naturellement, avec Jésus en plus et Dieu en plus. Moi, ma fille, enfin, pour vous encourager, ma fille est quelqu'un de très timide, etc. Et elle est investie dans la prière pour ses maîtresses, pour son apprentissage, parce que ben, malheureusement, elle commence à prendre le chemin que j'ai avec peut-être une suspicion de dyslexie, etc. Mais non, elle s'acharne. Et puis, du coup, l'instituteur, tel sujet, ben, on a prié pour ça. Et puis, voilà, c'est hyper... Est-ce que moi, je suis frustrée parce que quand j'ai des lycéens en face et que j'ai des lycéens qui sont justes, mais tellement pris par des choses négatives et que là, moi, je suis en face de ma classe et je dis, Céline, tu peux pas ouvrir la bouche. Alors oui, je prie dans mon cœur, mais c'est frustrant. C'est frustrant. Alors, juste, après, on va vite passer aux questions. Je voudrais juste qu'on ferme les yeux et que vraiment on se mette, nous, notre cœur, notre rôle de mère, notre rôle de parent. Je voulais juste, dans ce petit moment d'appel, peut-être que vous avez juste besoin d'être renouvelé dans vos forces en tant que maman. Peut-être que oui, c'est facile hein, de déposer nos enfants, puis de les récupérer, etc. Parce que la vie est pleine. J'en fais partie, je sais comment la vie va vite, comment on est submergé par notre boulot, etc. Mais vraiment qu'on reprenne c'est vraiment l'idée que Dieu a sur nos vies, le fait qu'on ait une autorité, qu'on a cette matrice en nous qui fait qu'on a ce rôle de protection par rapport à la pollution qu'entourent nos enfants. Reprendre et restaurer un suivi peut-être auprès de nos enfants, une proximité avec nos enfants pour être juste garant de ce qu'ils vont manger. C'est pas manger physiquement, c'est manger intellectuellement, manger spirituellement. Seigneur Jésus, comme tu as pu m'accorder, Seigneur Jésus, le fait de reprendre cette position de réaliser le challenge que j'avais auprès de mes enfants. Je te demande, Seigneur Jésus, ce soir, de passer, de poser ta main. Merci pour ces mères, merci pour ces grands-mères, merci pour ces tantes, merci pour ces personnes qui n'ont pas peut-être pu avoir d'enfants, mais qui sont juste présents pour se tenir pour toi, debout, à être vigilant pour ses enfants, à protéger ses enfants que tu nous accordes. Merci pour le privilège de la position que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, je veux réaliser que je suis cet instrument et je veux me laisser, comme on nous le disait ce matin, je veux échanger pour être le modèle que tu veux que je sois pour mes enfants. Le modèle d'éducation, le modèle d'accompagner mon enfant, de l'entraîner à ce qu'il devienne un adulte, Seigneur, qui n'oubliera pas ce que je lui ai enseigné. Parce que ce que je lui aurais enseigné, c'est que j'aurais eu un cœur à cœur avec toi pour leur transmettre. Et c'est vraiment ce cœur à cœur que je veux instaurer ce soir pour avoir les bonnes armes en ma possession, pour me battre pour mon enfant, pour protéger mon enfant dans son devenir. Je te remercie pour ce temps de partage. Merci parce que tu es présent avec nous. nous te disons Amen. Amen. Alors, on va passer rapidement à